Ok. Bon, excusez-moi pour les 5 minutes de retard, ça a été un peu sportif ce matin. Alors, j'ai pas les fiches de TD, du coup, j'espère, j'ai relancé vendredi, j'espère que je les aurai pour le cours de mercredi. Il n'y a pas de possibilité d'allumer plus, là, dans l'amphi. Vous avez déjà eu cours dans l'amphi 2 ? Et c'était comme ça ? Je regarderai après. Ok, donc je vous expliquerai les fiches de TD, c'est ce que je vous disais, quand on les aura, parce que ça ne sert à rien que je vous les présente quand vous ne les avez pas sous les yeux. Par ailleurs, s'agissant de ce que je veux vous poster, c'est-à-dire évidemment le plan de cours qu'on n'a toujours pas du coup non plus, l'ensemble des fiches plus les slides au fur et à mesure au compte-gouttes. Donc là, je sais que j'ai déjà deux cours plus celui d'aujourd'hui à vous mettre en ligne et les fichiers audio. Donc vous vous souvenez, il n'y a que la première heure où l'enregistrement a buggé. C'est pas très compliqué, hein, c'est juste que j'ai une appli gratuite et qu'il faut que je passe les pubs une fois que j'ai enregistré le fichier et que je ne les ai pas passés. Donc la première heure n'a pas enregistré le fichier, c'est pas dramatique. Mais donc vous aurez l'ensemble. Ils ne sont pas en capacité pour l'instant de me rétablir l'accès sur eCampus. Donc j'ai sollicité les services informatiques, j'attends un retour. Je ne vous oublie pas, je sais que vous attendez les fichiers. Vous inquiétez pas, tout sera posté dès que j'ai un accès. Je réessaye là quand on a terminé le cours. Pour l'instant, j'ai rien. Ok. On s'est donc arrêté vendredi sur la question des sources et on a commencé à présenter d'abord le fait qu'il y avait une espèce de dualité entre des sources principales qu'on avait appelées les sources instituées, les sources écrites qui viennent d'une autorité instituée et puis ce qu'on appelle les sources complémentaires. Et là, pour le coup, dans les sources complémentaires, on va voir assez rapidement. On va en parler un peu aujourd'hui, on commencera peut-être à aborder un tout petit peu aujourd'hui marginalement la question des sources complémentaires. Vous avez deux sources complémentaires qui sont de présence et d'importance en droit différentes. La source un peu plus résiduelle dans les sources complémentaires qu'est la coutume, que vous allez rencontrer moins souvent, qui a une incidence moindre, mais qu'il faut connaître dans un bilan des sources évidemment, et une source certes complémentaire, mais paradoxalement presque en fait de premier plan dans votre cursus, dans l'apprentissage et dans la pratique ensuite, qui est la source de la jurisprudence, c'est-à-dire, on en reparlera, mais l'ensemble des décisions de justice. Et donc on attaquait sur la question des sources principales avec l'idée qu'on avait la loi un peu au cœur dans la présentation des sources. Je vous ai expliqué l'importance de la présentation exhaustive de toutes les sources pour comprendre ensuite la hiérarchie des normes. La loi un peu centrale, en partant de l'idée plus ou moins réaliste que c'est la première source, pour pas dire parfois la seule source, et c'est pas un reproche, hein, vous commencez, mais parfois la seule source que vous avez à l'esprit quand on pense à la forme que peut prendre une règle de droit. Donc on a la loi un peu au milieu, et on va voir qu'en fait, la loi, elle existe, mais elle existe parmi un environnement, un écosystème d'autres sources, et notamment des sources qui lui sont supérieures en termes de valeur. Donc on parlera de sources supra-législatives, au sens de au-dessus de la loi dans une hiérarchie, et des sources en parallèle qui lui sont inférieures, donc où la valeur de la loi est plus grande que la source regardée. Et dans ce cas-là, on parlera de sources infra-législatives. Et il s'agit donc maintenant d'entrer dans le détail des sources supra-législatives. Je rappelle ce que j'ai évoqué brièvement en fin de cours vendredi après-midi, et qui consiste à vous dire, attention, à ne pas tenir pour des synonymes exacts parfaits, les notions de sources supralégislatives et supranationales. On va voir que dans les sources supralégislatives, certaines, donc encore une fois, supralégislatives égales ayant une valeur au-dessus de la loi, dans les sources supralégislatives, vous avez certes un très grand nombre de sources qui sont également des sources supranationales, les traités, les accords, le droit de l'Union, le droit du Conseil de l'Europe, etc. Mais vous avez aussi une source qui, en fait, va s'avérer être la source la plus importante en termes de valeur dans la hiérarchie et qui, elle, n'est pas une source supranationale, c'est une source nationale. Elle a été créée dans l'État français, pour l'État français, sans ouverture à l'extérieur particulière, pour le coup, et c'est donc la Constitution qu'on va attaquer maintenant. Donc gardez bien ça dans la tête, mettez-le comme vous voulez dans vos notes, mais l'idée, c'est que sources supralégislatives et sources supranationales ne sont pas de parfaits synonymes.
La catégorie sources supralégislatives est plus grande et elle accueille certes les sources supranationales, mais aussi la plus importante de toutes les sources qui, elle, est juste nationale et qui est la Constitution. En réalité, il faudrait même avoir un petit 1, non pas la Constitution, c'est un peu un raccourci de pensée, mais le bloc de constitutionnalité, je vous explique dans un instant. Ok, alors, la Constitution, c'est très particulier pour moi ici parce que vous avez un cours de droit constitutionnel, donc je ne vais pas m'étendre non plus de manière absolue sur la question de la Constitution et du bloc de constitutionnalité. Mon objectif ici, ce n'est pas de faire une analyse exhaustive de la Constitution. Ça appartient à mon collègue en Constit. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous expliquer brièvement ce qui compose le bloc de constitutionnalité pour que vous ayez une idée de voilà, ce qui est à l'intérieur de ce bloc qui a la valeur la plus haute dans la hiérarchie des normes. Si on résume brièvement, la Constitution, c'est d'abord effectivement le corps de règles qui a la valeur la plus haute dans la hiérarchie des normes. On parlera de la hiérarchie des normes plus tard, mais vous pouvez d'ores et déjà noter que tout en haut de ce qu'on appelle traditionnellement, il y aurait des choses à redire, mais ce qu'on appelle traditionnellement la pyramide de Kelsen, ça s'écrit K-E-L-S-E-N, je vous parlerai de Kelsen un peu plus tard, mais donc dans cette pyramide qui représente la hiérarchie des normes, tout en haut, vous trouvez la Constitution, plus exactement, si on veut être un peu plus rigoureux, vous trouvez le bloc de constitutionnalité. C'est pour ça que souvent, quand on en parle, enfin parfois, quand on parle de la Constitution, du bloc de constitutionnalité, on vous évoque la norme suprême. C'est suprême au sens de aucune autre règle ne lui est supérieure en termes de valeur. Les règles qui composent le bloc de constitutionnalité priment sur toutes les autres. Voilà. L'un des principaux objectifs de la Constitution, pour l'instant, avant d'envisager le bloc de constitutionnalité plus largement, la Constitution au sens strict, elle a pour objectif d'organiser, d'encadrer le fonctionnement des institutions françaises de l'État. Voilà. Et donc, si vous avez bien compris ce qu'on a expliqué dans le chapitre précédent à propos des divisions du droit et surtout à propos de la division publique-privée, vous comprenez pourquoi le droit constitutionnel, le constit, est classé dans les matières de droit public. Parce qu'en droit constitutionnel, puisque vous étudiez la Constitution, notamment, vous étudiez notamment le système, le fonctionnement, l'organisation des institutions de l'État. Donc c'est du public. Voilà. La première constitution française, je ne vais pas faire un cours d'intro historique, mais la première constitution française, elle date de la période révolutionnaire, plus particulièrement de 1791. Et si on fait un très grand saut dans le temps, nous, on est aujourd'hui sous la constitution de la Ve République, qui est une constitution qui a été adoptée le 4 octobre 1958. C'est un texte de 1958, mais qui a subi un certain nombre de modifications depuis. Il y avait eu des modifications très importantes avec une loi constitutionnelle de 2008. La dernière modification en date, vous en avez peut-être entendu parler parce que ça a été débattu comme sujet, alors davantage sur la forme que sur le fond, encore que, parfois ça dépend presque, mais la dernière modification, c'est une modification toute récente, là, du 8 mars dernier, donc 8 mars 2024, et c'est une modification constitutionnelle qui a notamment intégré le droit à l'IVG dans la Constitution. Voilà. Maintenant, le droit à l'avortement est reconnu comme un droit à valeur constitutionnelle, ce qui veut dire donc qu'aucune autre règle ne peut venir le contester, puisque, intégrant la Constitution, il se retrouve doté de la force maximale, ce principe-là, et donc vous ne pouvez plus avoir aujourd'hui une loi, par exemple, qui serait adoptée par le Parlement et qui interdirait l'IVG parce que, hop, vous auriez une norme de valeur supérieure dans la Constitution qui interdit justement qu'on touche à ce droit-là. C'était l'un des objectifs. Bref, je vous donne juste un exemple pour vous dire, attention, c'est une Constitution de 1958, certes, on est toujours sous la Ve République, ceci étant dit, ça ne veut pas dire que le texte a été immuable depuis 1858, il y a eu un certain nombre de changements, d'évolutions depuis. Encore une fois, je ne m'arrête pas sur le contenu précis des articles de la Constitution. Vous verrez ça parfaitement en droit constitutionnel. Ça échappe pour le coup à ma compétence. Si on fait la synthèse, vous avez 108 articles désormais. Il y a encore quelques années, il n'y en avait que 89. Donc c'est pour vous dire que les lois constitutionnelles successives, elles grossissent aussi le corps de la Constitution. Donc 108 articles sur 17 titres. Et qui sont donc des articles relatifs au fonctionnement des pouvoirs publics, au fonctionnement des institutions, de la puissance publique au sens large en réalité. Et donc vous allez trouver des articles que vous étudierez dans le détail sur les types de pouvoirs qui sont reconnus au président de la République, sur le fonctionnement du Conseil constitutionnel aussi, sur le Parlement, sur le fonctionnement de l'autorité judiciaire, des procédures de révision, etc. Ce qui m'intéresse surtout ici, c'est qu'après avoir présenté le corps, on appelle ça comme ça, le corps de la Constitution, c'est ça, c'est-à-dire ses articles, aujourd'hui 108, il ne faut pas négliger le fait que la Constitution ne se résume précisément pas à ce corps de 108 articles, mais qu'elle est aussi composée d'un préambule. Préambule qu'on qualifie souvent de préambule gigogne. C'est une référence métaphorique, évidemment. Mais c'est une référence, cette expression de préambule gigogne, à un truc que vous connaissez peut-être, qui sont les poupées gigognes, qu'on appelle aussi les poupées russes. Vous savez, elles sont emboîtées les unes dans les autres, vous en avez une toute petite, et puis cette toute petite, elle est enfermée dans une plus grande au-dessus, et une plus grande, et une plus grande. Et donc à l'inverse, à chaque fois que vous ouvrez la grande, hop, vous en avez une plus petite en dessous. Bon, l'idée de préambule gigogne, donc, c'est qu'à l'intérieur du préambule de la Constitution de 58, il va y avoir des renvois à d'autres textes, qu'on va donc trouver un peu, c'est une image encore une fois évidemment, mais à l'intérieur de cette poupée préambule de 58, quand vous allez l'ouvrir, ce préambule, vous allez trouver d'autres textes dedans, et parce que ces textes sont mentionnés dans le préambule, qui lui-même est dans la Constitution, on fait, ne me l'écrivez surtout pas comme ça dans les copies évidemment, mais c'est pour vous expliquer, on fait un prix de gros sur l'ensemble, tout ce qui est visé dans le préambule relève de la Constitution et donc à valeur constitutionnelle. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parle de préambule gigogne. Alors, une fois qu'on a explicité ça, qu'est-ce qu'on trouve précisément dans le préambule de la Constitution de 58? Quels sont les textes qui sont visés dans le préambule? Vous les avez au tableau, je vous les donne ici, mais vous les avez. Vous avez d'abord, évidemment, oui, c'est pas très surprenant, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Attention à ne pas confondre avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qu'on verra tout à l'heure. Il y a deux grands textes, en fait, appliqués en France, en tout cas, sur les questions de droits fondamentaux. La Déclaration française révolutionnaire de 1789 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Voilà. Donc là, on parle bien de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Vous avez aussi une référence qui a été ajoutée à la Charte de l'environnement, qui est un texte de 2004, et qui donc, tac, lui aussi prend immédiatement valeur constitutionnelle. Et puis, il y a un renvoi, et là, on a encore plus notre idée de poupée gigogne, comme ça, de poupée russe. Le préambule de 58 renvoie au préambule de 46, donc, on récupère le contenu du préambule de 46 aussi comme ayant valeur constitutionnelle puisqu'il est visé dans le préambule de 58. Or, dans le préambule de 46, vous avez une référence à ce que je vous ai mis en bas de la slide, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République qui, étant dans le préambule de 46, auquel renvoie le préambule de 58, qui est rattaché à la Constitution, à valeur constitutionnelle. Voilà. Donc ça veut dire, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, en fait, quand j'ai un petit 1, la Constitution, sur les sources supralégislatives, c'est moi qui ne suis pas complètement précise, et il vaut mieux appeler votre petit 1, pour le coup, le bloc de constitutionnalité, parce que précisément, ce qui est tout en haut de la pyramide, ce n'est pas juste la Constitution, ce n'est pas juste les 108 articles, c'est les articles plus le préambule de 58 et tout ce qu'il embarque avec lui. Donc, la DDHC, la Charte de l'environnement, le préambule de la Constitution de 46 et donc les principes fondamentaux en dessous. L'importance de ce préambule, la valeur constitutionnelle de ce préambule, elle a été affirmée par le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui a dit que oui, le préambule de 58 avait valeur constitutionnelle, donc qui se retrouvait encore une fois tout en haut de la pyramide, et qu'avec lui, tous les textes auxquels il faisait référence acquéraient valeur constitutionnelle aussi. C'est, on en parlait tout à l'heure, alors pour le coup, pour l'inscription dans la Constitution, pardon, il y a eu, évidemment, vous le savez, une autre grande décision du Conseil constitutionnel, qui est la décision du 16 juillet 1971. Apprenez pas la date, je m'en fiche. C'est juste la décision du Conseil constitutionnel quand on a adopté la loi sur l'IVG, pour le coup, dans les années 70. Là, il n'était pas question de rendre la règle constitutionnelle, mais vous avez des sénateurs et des députés qui avaient saisi le Conseil constitutionnel pour essayer de faire dire, vous savez à quel point la loi sur l'IVG a été difficile à adopter. Il y a des députés et des sénateurs qui avaient saisi le Conseil constitutionnel pour essayer de faire invalider la loi autorisant l'IVG en essayant d'invoquer le fait qu'elle était anticonstitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a refusé, ce qui fait qu'on a adopté la loi sur l'IVG dans les années 70. Mais donc, cette décision-là, de 71, a été notamment l'occasion pour le Conseil constitutionnel de dire « Le préambule de la Constitution de 58 a valeur constitutionnelle et tous les textes auxquels renvoie ce préambule ont également cette coloration de valeur constitutionnelle. » Donc, on reparlera de la pyramide de la hiérarchie des normes plus tard, mais retenez dès maintenant que l'ensemble de ces textes-là se retrouve tout en haut de la pyramide. Une fois qu'on a évacué, entre guillemets, la question du bloc qui est tout en haut, la question du bloc de constitutionnalité, il faut dire quelques mots des sources supranationales. Vous vous souvenez, on avait déjà un peu parlé de tout ça quand on a évoqué les divisions dans l'espace, pour le coup, dans le chapitre précédent. Et je vous avais dit, il faut faire une espèce de dézoom. Vous n'avez pas que des règles appliquées en France qui sont adoptées au niveau de l'État français. Vous avez aussi des règles qui proviennent d'une autorité supérieure au sens de pas seulement nationale, mais d'une discussion d'État entre eux. Donc, ce n'est pas seulement l'État français qui décide, c'est l'État français avec d'autres, ce qui rend donc la source supranationale. Il faut aborder trois points distincts ici, dans les sources supranationales. D'abord, les traités internationaux. Ensuite, le droit de l'Union européenne. Et enfin, le droit du Conseil de l'Europe. On va revenir sur toutes ces expressions-là, vous inquiétez pas. Parfois, le fait qu'elles se ressemblent beaucoup est un peu traître et en fait, ça s'acquiert au fur et à mesure. Donc, traités internationaux, droit de l'Union européenne, droit du Conseil de l'Europe. Et un petit A, donc, pour commencer sur les traités internationaux. Excusez-moi. Par définition, un traité international, c'est un traité entre nations, donc entre États. Donc, par définition, toujours, c'est bien une source supranationale. Elle n'est pas élaborée que par l'État français seul dans son coin et adoptée que par l'État français seul dans son coin. Elle concerne une pluralité d'États. Alors, quand je dis une pluralité, ça peut être 2 ou 50. Voilà. Vous avez ce qu'on appelle des traités bilatéraux, donc à deux côtés, donc vous n'avez que 2 États signataires, et des traités qu'on appelle au contraire des traités multilatéraux, quand il y a plus de 2 signataires. Vous pouvez en avoir 3, encore une fois, vous pouvez en avoir 50, vous pouvez en avoir 100, peu importe. C'est juste une question de pas vraiment de nomenclature, mais de vocabulaire. Comment ça se passe en pratique? Parce que ça veut dire, puisqu'on l'étudie ici, que les règles qui sont dans les traités internationaux, elles vont acquérir une source, une valeur supérieure à la loi. Souvenez-vous qu'on est toujours dans le grand A, les sources supralégislatives. Donc, mes sources qui sont dans les traités internationaux, elles vont avoir une valeur dans la hiérarchie plus importante que ce qui est reconnu à ma loi. Je fais comment ? Comment est-ce que ces règles-là intègrent le droit positif français ? Comment est-ce qu'elles sont appliquées ? Comment est-ce que ça se passe ? C'est moins évident que pour la loi, pour le coup. Alors d'abord, évidemment, le fait de ratifier, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire le fait de conclure un traité, c'est un choix des États. L'État français, pour ce qui nous intéresse, nous, fait le choix de s'engager dans un processus de traité. Ça suppose, en principe, on va voir après qu'il y a des nuances, mais ça suppose en principe que le président de la République, c'est son pouvoir de principe, ratifie, encore une fois, la ratification c'est le terme technique pour dire s'engage, au nom de l'État français. C'est lui qui a la compétence de principe. Une fois qu'on a précisé le principe, il faut préciser quand même que dans certaines hypothèses, pour certains accords, pour certains traités, la procédure est plus rigoureuse que ça. Par exemple, pour les traités commerciaux, pour les traités qui engagent les finances publiques. Pour les traités, a fortiori, qui sont des traités de paix, alors dans ces cas-là, il faut que la ratification passe par une loi. Donc il faut que le Parlement soit sollicité et que le Parlement, qui est l'émanation du peuple, accepte la ratification. De la même manière, vous avez parfois des procédures de ratification spécifiques quand vous allez avoir des traités qui concernent soit des cessions, soit des échanges, soit des adjonctions de territoire. Voilà. C'est mouvant, hein, en fait, les frontières géographiques, et on peut décider de céder un territoire, on peut décider d'adjoindre un territoire, d'échanger, etc. Dans toutes ces hypothèses-là, fort heureusement, la ratification par le président ne suffit pas et il faut solliciter l'avis des populations concernées. Donc vous faites un référendum. Voilà. La population concernée s'exprime et au regard de l'expression de la population concernée, alors le cas échéant, ensuite, il est possible de ratifier le traité. Alors très souvent, vous trouvez la double expression traité et accord internationaux. La différence, surtout en début de première année, entre le traité et l'accord, elle est très marginale. Elle réside notamment, surtout, dans la question de la ratification. La ratification par le président, elle est exigée pour le traité, elle n'est pas pour l'accord. Un accord international, il n'est pas exigé que le président le ratifie lui-même. L'important, c'est qu'il soit tenu informé des négociations et de l'évolution de ces négociations. Mais il n'a pas pour l'accord international, donc contrairement au traité, il n'a pas d'obligation de ratifier lui-même. C'est très secondaire, hein, pour le coup. C'est juste pour que vous ayez l'information, mais c'est très secondaire en première année. Alors, ça nous amène à une question absolument essentielle. Comment je fais si une clause, on appelle ça comme ça, si une clause du traité que l'État français s'apprête à ratifier, donc à intégrer dans son droit, est contraire à la Constitution. Sur une question précise, mon traité va dire blanc et ma Constitution dit noir. Qu'est-ce que je fais ? En principe, votre réponse logique, là, c'est de vous dire, ben, on a dit que la Constitution, le bloc de constitutionnalité était tout en haut et que donc rien, aucune règle ne pouvait venir contredire ce bloc de constitutionnalité. Donc, en principe, bah, c'est très simple, on fait sauter la clause. Voilà. Il ne peut pas y avoir de norme inférieure contraire à la norme supérieure. Donc, si le traité dans une de ces clauses est contraire à la Constitution, il faut expurger le traité de la clause en question. Sur un plan théorique, vous auriez raison de penser comme ça. Maintenant, en pratique, imaginez deux secondes un traité dans lequel vous avez 50 États qui s'engagent et puis 50 États vont avoir une clause du traité chacun qui est contraire à leur constitution. Et donc on va expurger le traité de 50 clauses et en fait vous vous retrouvez avec un traité qui a été complètement vidé de sa substance. Pour éviter ça, le processus est différent. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va geler le processus de ratification si on constate une contrariété avec la constitution. On gèle, on interrompt le processus. Le Conseil constitutionnel va avoir dit qu'il y avait effectivement une contrariété. Le Conseil constitutionnel, il est nécessairement saisi, hein, sur cette question. Il va constater une contrariété entre la Constitution et le traité en cause, et donc ça va permettre d'interrompre le processus. Et là, du coup, il y a deux solutions. Soit on modifie notre Constitution. Et dans ce cas-là, bah, les deux répondront blanc, ou les deux répondront noir, je ne sais plus dans quel sens je l'ai donné. Et il n'y a plus de contrariété, et on peut relancer le processus. Soit au contraire, on refuse la modification de la Constitution, on n'y est pas obligé. Hein. Encore une fois, c'est la norme tout en haut, donc rien ne nous contraint à mettre en adéquation la Constitution avec le traité. Et dans ce cas-là, on abandonne la conclusion du traité. Voilà.
Il y a une troisième voie, évidemment, que vous approfondirez si vous faites du droit international, qui est une voie de négociation avec les États signataires pour voir si on peut bouger la clause, la changer de sens pour la rendre, elle, conforme à la Constitution. Mais si on regarde la question du périmètre juste de l'État français, il n'y a que deux alternatives. On a gelé le processus de ratification, soit on modifie la Constitution et on peut reprendre la ratification, soit on refuse de modifier la Constitution et on abandonne la ratification. Voilà. Une fois qu'on a passé ça, vous allez ratifier le traité. Voilà. Ça veut dire qu'en principe, il devient directement applicable dans les États qui sont signataires, ce traité. Il a été conclu, admettons, par trois États. Bon, bah, au moment où il est ratifié, il devient des règles de droit positif pour les États signataires. Il y aurait donc une logique de ce qu'on appelle d'applicabilité directe. Dès que le traité est ratifié, hop, il s'applique dans les États dans lesquels il a été ratifié. On verra dans un instant que ce fonctionnement-là, d'application, d'applicabilité directe, il ne fonctionne pas pour toutes les sources supranationales et qu'il y a des sources supranationales qui nécessitent pour être appliquées en France une intervention du législateur. C'est les directives, faites juste un renvoi pour vous dire que ce n'est pas toujours comme ça et les sources ne sont pas toujours directement applicables. Parfois, il faut une intervention supplémentaire et c'est le cas pour les directives européennes dont je vous parle dans un instant. Pour les traités et les accords internationaux, par contre, donc, en principe, le texte intègre le droit français sans qu'il y ait besoin de transposition ni rien. Ça veut dire que, du coup, nous, citoyens, on peut directement invoquer devant un juge le bénéfice d'un traité. On n'a rien besoin d'attendre de particulier. La France a ratifié le traité. On est des citoyens français. Si ça nous est utile, on invoquera le traité, le bénéfice du traité, directement devant le juge. Néanmoins, là encore, ce serait trop simple. Vous avez certains traités internationaux qui ne créent d'obligation qu'à la charge des États. C'est un peu technique, je vais essayer de simplifier. Parfois, le traité en question n'est pas directement applicable. Parfois, le traité, en fait, prévoit, si je force un peu le trait, que les États s'engagent à adopter des législations sur tel ou tel point, dans tel ou tel sens. Dans ce cas-là, il n'est pas directement applicable, le traité. Il faut que vous attendiez que votre État adopte la législation qu'il s'est engagé à adopter dans le traité. Mais donc, vous voyez le distinguo. Parfois, le traité va vous dire, je reconnais tel droit aux citoyens, et dans ce cas-là, pas de problème, hop, c'est directement applicable et vous pouvez l'invoquer directement. Parfois, le traité va simplement charger les États de reconnaître ce droit-là dans leur législation interne. Et si c'est le deuxième cas, si on est dans la deuxième hypothèse, là, vous ne pouvez pas invoquer le bénéfice direct. Vous êtes obligé d'attendre que l'État français adopte une loi. Alors, comment est-ce que je sais ? Pour le dire techniquement, avant de l'expliciter, comment est-ce que je détermine, moi, justiciable, si le traité que je souhaite invoquer devant un juge est ou non d'applicabilité directe ? Comment est-ce que je sais si je peux m'en prévaloir directement ou s'il faut que j'attende que le législateur adopte une loi dans ce sens-là ? Alors parfois, ça va relever de l'évidence. Parce que parfois, vous allez avoir une clause dans le traité qui va vous dire « le traité est d'applicabilité directe ». Dans ce cas-là, on ne se pose plus de questions. Voilà. On sait directement que le traité est d'applicabilité directe et il n'y a pas de problème. Dans plein d'autres hypothèses, évidemment, le traité est silencieux, ne vous dit pas s'il est ou pas d'applicabilité directe. Dans ce cas-là, comment est-ce que je fais ? La meilleure technique, typiquement, si vous êtes avocat, la meilleure technique, c'est d'invoquer l'applicabilité directe au bénéfice de votre client. Et c'est le juge qui décide. C'est le juge qui va devoir examiner, lire le traité attentivement et déceler dans le traité si les États signataires ont eu l'intention de le rendre d'applicabilité directe ou ont eu simplement l'intention de s'engager pour dire « on va prendre des législations internes dans ce sens-là ». Donc, devant un juge, dans un contentieux, vous allez invoquer le bénéfice de l'applicabilité directe en disant « Eh oh, là, en juin, on a signé un traité qui me reconnaît tel droit, je veux le bénéfice de ce droit-là ». Et c'est le juge qui va être appelé, du coup, à vous dire « Ok, très bien, effectivement, le traité est d'applicabilité directe, auquel cas, ben, on vous applique le nouveau droit et vous pouvez l'invoquer. Ou au contraire, ben, non, on est désolé, mais en fait, c'est un traité qui ne crée d'obligation qu'à l'égard des États, et donc il faut attendre qu'il y ait une législation nationale pour que vous puissiez en bénéficier. Voilà. Donc en fait, la détermination du bénéfice direct au citoyen, généralement, c'est le juge qui la fixe. Qui est paumé ? Pour qui est-ce que ça va ? Qui n'a pas répondu ? D'accord. Ok, bon, globalement, ça va.
Une dernière condition à... Je précise un point quand même, parce que le début un peu turbo comme ça est compliqué. Je vous ai dit, j'ai fixé les deux cours d'avance, donc celui d'aujourd'hui et celui qu'on a eu vendredi, pour que vous ayez jamais de retard sur les TD, parce qu'en première année surtout, il n'y a rien de pire que de préparer un TD sans avoir eu le cours qui correspond au contenu du TD. L'intérêt de ces deux cours d'avance-là, c'est que quand vous allez commencer les TD la semaine prochaine, je crois, ouais. Bon, vous aurez déjà eu, pour ceux qui sont en début de semaine, vous aurez déjà eu 4 cours en amphi. Pour ceux qui sont en fin de semaine, on aura eu le 5e cours la semaine prochaine. Donc, 5 cours sur 11, on a suffisamment d'avance. En contrepartie, je ne suis pas aveugle. J'ai bien conscience du fait que c'est beaucoup à vous demander, là, à encaisser. Voilà. Que les 12 heures sur 2 semaines d'intro au droit... En commençant sur les normes, la hiérarchie des normes, etc., c'est pas le moment le plus fun de votre cursus. Voilà, dites-vous ça. Vraiment, j'ai le mauvais rôle là, c'est pas grave, je le prends. C'est pas les trucs les plus rigolos. On va avoir un peu plus rigolo, je vous dis pas que c'est la folie, mais on va avoir un peu plus sympa après, mais c'est un passage obligé. Voilà, si vous voulez rentrer dans le sympa derrière, dans le dur, il vous faut ça. Je fais simplement cette parenthèse pour vous dire que j'ai bien conscience du fait que 12 heures là-dessus d'un coup en deux semaines, c'est beaucoup, surtout que je ne suis pas toute seule à vous faire cours. Et que par ailleurs, et c'est pour ça que je vous en parle ici, si vous êtes paumé, pas de panique. Voilà. Là, pour l'instant, c'est que du cours magistral. Vous n'avez pas les TD pour poser les questions. Vous êtes abreuvé de nouveaux trucs comme ça, parfois très techniques. On ne se panique pas. Voilà. On va revenir sur ces points-là par la suite. Vous aurez vos TD. Vous allez voir que très souvent, ça clarifie quand même grandement le propos. Si ça ne clarifie pas, vous me posez vos questions à moi, vous posez vos questions à vos chargés de TD. Encore une fois, on est là pour ça. Dernier point donc, sur l'importance de la condition de réciprocité. Je vous l'ai dit, par définition, un traité, ça engage deux ou plus d'États. Mais c'est un accord en fait, c'est comme un contrat. Vous avez des parties qui se mettent d'accord. La particularité, c'est que c'est des États, mais c'est le même fonctionnement. Donc, ça signifie, pour là encore le dire dans un vocabulaire un peu plus technique, que les États parties, quand ils concluent le traité, l'accord, ils s'engagent mutuellement, réciproquement. Tu t'engages et je m'engage aussi. Voilà. Pour le dire de manière plus habillée, on a l'article 55 de la Constitution. Ne le notez pas, ça ne sert à rien, vous l'avez sur Légifrance partout. L'article 55 vous dit « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. » On a donc deux enseignements dans l'article 55 de la Constitution. Le premier, il se situe dans l'affirmation « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à la loi. » Et donc, on est bien conforté par le texte même de la Constitution sur le fait que les traités ont valeur supra-législative. C'est exactement ce que vous dit l'article 55. Le deuxième enseignement, c'est que pour autant, l'efficacité de l'application du traité en France, elle est conditionnée par l'application du traité par les autres États. Quand l'article 55 vous dit « sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie », ça veut dire, là encore, habillez-moi ça dans un langage technique, mais ça veut dire « je joue le jeu », tant que mon co-contractant, l'autre État partie, joue le jeu aussi. Voilà. C'est du donnant-donnant. La condition de réciprocité, si vous voulez la penser dans un vocabulaire beaucoup plus terre-à-terre et à, encore une fois, à habiller à l'écrit, mais c'est ça. Je tiens tant que tu tiens. J'applique tant que tu appliques. Voilà. Une condition de réciprocité, de respect mutuel des traités, c'est ça. C'est pas une mauvaise chose, c'est une solution assez naturelle, qu'on connaît bien en droit des contrats par ailleurs. Et c'est assez judicieux parce qu'il y a une sorte de pression réciproque. l'efficacité du traité que vous avez ratifié est conditionnée et tributaire du respect par l'autre partie. Donc en fait, tout le monde a intérêt à s'y plier parce que sinon, c'est une théorie des dominos et tout le monde sort. Donc elle sert à ça, la condition de réciprocité. Ceci dit, cette condition de réciprocité, elle est très efficace, mais elle n'est pas absolue. Autrement dit, elle ne va pas jouer systématiquement pour tous les traités. Alors, à première vue, cette affirmation-là, elle peut vous sembler un peu étonnante. C'est bizarre qu'il y ait des traités dans lesquels on se dise, bah, en fait, même si l'autre partie ou les autres parties ou certaines des autres parties respectent plus, moi, je suis quand même tenu au respect. À première vue, c'est un peu étonnant. En réalité, vous allez voir que c'est très logique. Les traités relatifs aux droits de l'homme échappent à la condition de réciprocité. Quand c'est des traités qui concernent les droits de l'homme, les droits fondamentaux, les libertés fondamentales, alors la condition de réciprocité disparaît. Excusez-moi. La condition de réciprocité disparaît, c'est-à-dire que dans ce cas-là, si c'est un traité relatif aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales, je ne peux plus dire « bah, machin a plus respecté, donc moi j'arrête aussi ». Exemple, et là d'un coup ça devient très logique. Je prends l'exemple le plus tranché, je vous ai prévenu que souvent mes exemples étaient archi tranchés, juste pour que ce soit plus clair pour tout le monde. On est dans un traité qui interdit la torture. Et l'un des signataires se remet à pratiquer la torture. On ne va pas se dire « bon attendez, s'il y va, moi je ne me prive plus non plus, hein, je torture moi aussi ». Donc, sur les traités relatifs aux droits de l'homme, la condition de réciprocité disparaît et ce n'est pas parce que l'un des États va cesser de respecter le traité qu'on pourra faire pareil sous couvert de « il respecte plus, je respecte plus ». Voilà. Donc c'est une catégorie particulière, mais il faut le savoir évidemment. Pour les traités qui, eux, sont soumis à la condition de réciprocité, comment est-ce que ça se passe en pratique ? Ce que je veux dire par là, c'est qui est compétent pour constater qu'il y a un des États signataires qui ne respecte plus le traité, et du coup pour pouvoir dire, bah attendez, s'il n'y a plus de respect par l'autre, je respecte non plus et je sors. Au départ, on a pensé aux juges, et notamment aux juges judiciaires, mais la Cour de cassation qui avait été saisie sur cette question, dans le cadre d'un litige, a refusé de se reconnaître compétente. La Cour de cassation, en gros, a dit « c'est pas ma compétence, ça, c'est pas à moi de déterminer si un autre État a violé le traité ou pas, et donc si on peut sortir ou pas ». L'organe compétent, c'est le pouvoir exécutif, en règle générale par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui peut constater qu'un des signataires ne respecte plus, et donc se délier du traité, en dénonçant, on appelle ça comme ça, le fait de se retirer d'un traité, on parle de dénonciation d'un traité, pour dire qu'on s'en retire. Donc le ministre des Affaires étrangères peut constater le non-respect par l'autre État, ou un des autres États, et décider de se délier en dénonçant le traité qui a été violé par l'autre partie. Ceci dit, je ne rentre pas dans les détails, gardez juste ça dans un coin de votre tête parce que ce sera réabordé les années suivantes, la Cour de justice de l'Union européenne a dit que le juge administratif devait pouvoir décider lui-même aussi, sans se sentir complètement lié par la décision du ministre, s'il y avait lieu de neutraliser le traité ou pas. Je laisse ça de côté, c'est trop technique en première année. Retenez simplement que le principe, c'est que c'est l'autorité, le pouvoir exécutif, donc le ministre des Affaires étrangères, sur cette question-là, et que parfois la lecture de la CEDH, de la Cour européenne des droits de l'homme, est un peu différente, et elle considère parfois que le juge administratif devrait avoir ce pouvoir-là, mais en pratique, c'est le pouvoir exécutif qui tranche. Est-ce qu'il y a des questions sur tous ces points-là ? Oui ? Là, sur le ministre des Affaires étrangères ? C'est lui qui va constater, alors par ses équipes évidemment, mais qui va constater qu'un des signataires autres ne respecte pas et qui va acter de ce non-respect en disant « puisque ça n'est plus respecté par l'autre partie, je dénonce moi aussi le traité pour l'État français et je sors ». Et simplement, vous avez la Cour européenne des droits de l'homme à côté qui vous dit « attention, le juge administratif doit pouvoir choisir aussi de délier les justiciables de l'application du traité, mais c'est très marginal, ce qu'il faut retenir surtout c'est le ministre ». Rien d'autre ? 10 minutes de pause et on reprend. Arrêtez de souffler comme ça.